France Inter, le 18-20.
8 semaines de confinement et enfin la liberté d'aller et venir pour prendre l'air. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, ce week-end de printemps est synonyme de libération après 2 mois passés à s'inventer une vie entièrement dedans, en travaillant souvent à distance dans un lieu devenu à la fois logement, bureau, école et salle de sport. Alors ce soir, on va réfléchir à ce que devraient être nos logements dans un monde idéal et plus globalement nos villes, car désormais il nous faut aussi cohabiter différemment dans l'espace public pour cause de virus. Comment réinventer la ville de demain? Quelle politique urbaine mettre en place? On en parle avec l'architecte Jean Nouvel qui nous fait le plaisir d'être avec nous jusqu'à 19h. Nous serons aussi en ligne avec Mathieu Chassinier, qui est ingénieur mobilité à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et nous entendrons l'acousticien Jérôme Sueur, qui lance un appel pour moins de bruit dans la ville. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Ménem et Virginie Rouzic, notre rubrique « Heureux déconfiné » avec le carnet des solutions de Philippe Bertrand. À 19h tout à l'heure, le journal de Pierre Veille. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, cette question, hommes-femmes, vivons-nous cette crise du coronavirus de la même façon? Pour en parler, n'hésitez pas à appeler le 01 45 24 7000. Nos standardistes, Siwen et Tom, attendent vos appels. Merci aussi à Arnaud Caillé et Ludovic Asselot à la technique et à Olivia Ferrandi à la rédaction en chef.
Claire Servagen. Le 18-20.
Bonsoir Jean Nouvel.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Un très grand merci d'être avec nous ce soir. Alors, faut-il le rappeler, vous êtes un de nos plus grands architectes. Ici en France, on vous doit entre autres l'Institut du Monde Arabe, le Musée du Quai Branly, la Philharmonie et j'en passe. À l'étranger, le Louvre à Abu Dhabi, pour ne citer que cela. Alors, pour vous qui travaillez bien au-delà des frontières, j'aimerais savoir ce que représente pour vous l'événement mondial que nous sommes en train de vivre, Jean Nouvel. Est-ce que c'est un signal d'alerte? Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que c'est un signe à saisir?
Écoutez, c'est un espoir aussi, finalement, puisque notre président nous invite à nous réinventer. Mais en fait, c'est aussi un cauchemar, quand même. C'est un mauvais rêve. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est pas un mauvais rêve, c'est que c'est vrai et long. Et c'est un incroyable révélateur des injustices et des inégalités des conditions d'habiter, selon les villes et selon les ségrégations, surtout. Donc on ne peut plus faire comme si on n'avait pas vu, comme si on n'avait pas compris. Et Dieu sait que sur les logements ségrégés, ça fait très très longtemps que tout le monde alerte, depuis 30 ans pratiquement maintenant. Et finalement, on est toujours dans la même situation. Donc là, maintenant, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Donc il va falloir sûrement changer des choses importantes.
Vous-même, Jean Nouvel, comment avez-vous vécu ces 2 mois de confinement? Vous êtes resté ici à Paris, dans un environnement qu'on imagine forcément agréable, vu votre métier?
À la fois chez moi, dans un endroit qui est le siège d'une de mes sociétés aussi, mais où j'habite. Je suis face à une cour très minérale, au cœur de Paris. Donc je vois uniquement le ciel de Paris et les variations de lumière avec les nuages et le soleil. Sur une façade de pierre, c'est assez parisien.
Vous allez avoir envie de planter des arbres, dites-moi, dans cet espace.
Oui, mais il y a une beauté minérale aussi dans Paris, c'est de temps en temps quand même.
Est-ce que vous avez continué à travailler avec vos équipes? Parce que cette crise, elle a mis peut-être un coup d'arrêt à certains chantiers, non? C'est pas le cas?
Mais on est obligé de continuer à travailler. On travaille tous en télétravail, donc on est tous les après-midi pratiquement devant les écrans. Les écrans sont coupés en 5 ou 6 en fonction du nombre de personnes. Et donc, on travaille presque comme si on était chez nous, dans nos ateliers. Mais enfin, en architecture, c'est bien quand même de pouvoir se toucher. C'est bien de pouvoir se confronter. C'est bien aussi de pouvoir manipuler des plans, de pouvoir être dans le matériel et pas uniquement dans l'immatériel.
En tout cas, ça n'a pas remis en cause certains de vos projets ici ou ailleurs pour l'instant?
Pour le moment, pas. Mais vous savez, on n'est à l'abri de rien, hein. Dans ces périodes-là, on verra ça peut-être plus tard. Mais enfin, pour le moment, les projets continuent et nous avons beaucoup de travail.
Parce que forcément, cette crise, elle aura des conséquences économiques lourdes et elle en aura sans doute sur la façon de bâtir, de construire, d'agencer la ville.
Bien sûr, ça, on est absolument certain qu'il devrait y avoir beaucoup de changements et sûrement beaucoup de projets arrêtés aussi quand même, beaucoup. On en parle un peu partout. Donc, qu'est-ce que va donner l'économie dans les semaines et les mois à venir? On ne sait pas trop. C'est un point d'interrogation.
Alors, en tout cas, Jean Nouvel, on va reparler de tout ça, mais je voudrais qu'on dise d'abord un mot de nos logements, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes des milliards à avoir dû rester entre quatre murs pendant plusieurs semaines. Vous le disiez il y a quelques instants, tout cela a montré les inégalités des conditions de logement. On le savait, mais là, on en a pris conscience. Le mal-logement, c'est une réalité qui concerne des millions de personnes en France. Je vous propose d'écouter ce reportage qui a été réalisé le mois dernier par Étienne Monin. Rencontre avec une famille de 5 personnes qui vit dans 11 mètres carrés sous les toits dans le 18e arrondissement de Paris. Quand il a rencontré la famille de Martial, le dernier de la famille venait tout juste d'arriver.
Dans cet appartement, Martial a l'impression de vivre dans la cabine d'un bateau, sauf que le voyage est permanent et qu'il y a 3 enfants à bord. Il faut donc gérer l'espace au centimètre près.
Alicia, elle dort dans sa petite mezzanine. Thiago dort avec sa maman juste en dessous dans le lit de place. Et Léandre, il dort dans, juste entre le canapé et la mezzanine. J'ai conçu un petit lit. Et moi, je dors dans un hamac qui traverse la pièce.
Martial habite cette chambre de bonne depuis près de 20 ans, mais la famille s'est agrandie. L'aîné a 3 ans et demi. Le petit dernier, 3 semaines. Léandre est né pendant le confinement. L'organisation est devenue quasiment militaire. Et la jeune maman, Maria, ne sort presque plus.
C'est la fatigue du corps, la fatigue psychologique surtout. Parce qu'il faut faire très attention pour le petit. Et surtout, la chaleur commence. Ça vient presque insupportable. J'étais dedans de la maison avec le chaleur qui commence.
Plusieurs personnes ont proposé des appartements provisoires sur Paris le temps du confinement. Mais le couple cherche une véritable solution. Cela fait 4 ans qu'il attend un logement social. Le confinement ne fait qu'accentuer une situation déjà extrême.
Voilà pour ce reportage réalisé après un mois de confinement. Je précise que depuis, la situation de cette famille n'a pas changé. Seul le confinement a été levé. Peut-être une réaction, Jean Nouvel, à ce qu'on vient d'entendre là? C'est un cas peut-être extrême?
Vous savez, je me suis toujours battu pour augmenter la taille des logements, et en particulier des logements sociaux. Je trouve absolument scandaleux qu'on soit limité par des normes totalement abstraites comme ça. Je me suis toujours battu pour qu'on puisse construire plus grand au même prix. Et c'est une chose qui est possible, je l'ai prouvé dans les années 70 avec Nemosus, qui est un ensemble de logements sociaux à Nîmes, où on a construit 30 à 40% de plus de surface avec des terrasses et des duplex et des triplex dans le même prix. Mais ça, c'est très mal vu par le monde des bailleurs sociaux en général, parce qu'ils veulent répéter les mêmes choses. Actuellement, les logements, c'était des coups de tampon, en fait. C'est exactement les mêmes logements qui sont clonés. Nous sommes des numéros. Et on se retrouve avec des surfaces qui n'ont aucune réalité sociale. Et en plus, ces surfaces diminuent actuellement. Elles diminuent aussi un peu partout, parce qu'avec la politique foncière, le terrain est très cher. Et donc, on arrive à des prix qui amènent à des logements de plus en plus petits. C'est une chose qu'il faut absolument changer radicalement. C'est pas un système fiscal qui devrait nous amener là. Et on devrait absolument aller dans le sens du durable pour des logements dans lesquels on a envie de rester, dans lesquels on est bien, on n'a pas envie d'aller ailleurs. Et ça, je crois que c'est la première chose qu'il va falloir demander. Parce qu'actuellement, on est quand même dans la conscience de la réalité d'un immobilisme coupable et inhumain. Il faut refuser de perpétuer ce qui est inadmissible.
Il faut une autre politique du logement.
Il faut une autre politique du logement, mais qui parte de bases saines. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas comprendre, qu'on ne puisse pas construire plus grand au même prix. Et qu'on ne puisse pas construire des surfaces qui correspondent au bien-être. Actuellement, ce sont les logements du mal-être. Donc évidemment, la plupart des personnes qui devaient être dans ces logements pendant le confinement, on peut imaginer ce que ça peut donner. C'est bien évident qu'ils ne peuvent que sortir dans leur cage d'escalier, sortir ailleurs. Bon, c'est une politique scandaleuse.
Alors pendant ces 2 mois, Jean Nouvel, le balcon a été une bouffée d'oxygène pour ceux qui en ont un. J'avais envie de vous demander pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de balcons en France par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'il y a une explication à ça?
Écoutez, il n'y a aucune explication. À Paris, il y a quand même quelques balcons haussmanniens, quand même. Mais ce qui est scandaleux surtout, c'est que les logements sont tous faits de la même façon. Ils ont les mêmes normes au nord, au sud, qu'il fasse soleil, qu'il ne fasse pas soleil. Il n'y a aucune raison qu'on ait exactement le même nombre de mètres carrés à l'extérieur, à l'intérieur, quand on est au sud, quand on est au nord. On devrait à chaque fois adapter le logement à la situation. Et d'ailleurs, il faut adapter toujours l'architecture aux situations. Et la première chose qu'il faut demander, c'est que les maires puissent choisir eux-mêmes le type des logements, la taille des logements, leur programme, et qu'on les laisse, qu'on leur foute la paix avec toutes ces normes européennes ou françaises qui n'ont qu'un but, c'est de normaliser et de répéter. Nous ne sommes pas des numéros, on a envie de vivre correctement, et il n'y a pas de raison qu'on vit beaucoup plus mal en ville qu'à la campagne.
Alors pendant ces deux mois, on a aussi dû réinventer notre espace intérieur, notamment pour le télétravail. Est-ce que ça, ce sont des changements dont les architectes devront tenir compte à l'avenir? Est-ce qu'il faudra pouvoir moduler son logement à défaut de pouvoir l'agrandir?
Écoutez, il y a une chose qui est assez claire dans la globalisation, hein. C'est que nous vivons tous dans des appartements qui sont accessibles à la technique, et ce n'est pas fini. Toutes les techniques aujourd'hui liées à l'immatérialité, liées aux ondes, liées à un avenir absolument formidable, liées au numérique. Donc nous sommes tous accessibles à ça. Il suffit d'un câble, et quelquefois même pas, pour avoir tous des écrans, pour avoir tous la technique chez nous. Et donc on peut considérer que tous les logements devraient être facilement accessibles et devraient tous être modernes par définition. Il y a un contraste qui est assez beau d'ailleurs, c'est que le fait que les logements devraient être à chaque fois ancrés dans leur territoire, ancrés dans l'histoire, et que malgré ça, ils gardent toute cette capacité de réception. C'est-à-dire que dans l'espace le plus ancien, on peut avoir les objets les plus contemporains, les plus sophistiqués, les plus grands écrans, les plus beaux, et on peut, avec la globalisation aussi, évidemment, être en communication directement avec pratiquement n'importe quelle personne de la planète en direct, si j'ose dire. Donc ça, ce sont des conditions absolument incroyables. Donc il y a un mélange d'archaïsme, de topos, de masse, d'histoire confinée, si j'ose dire, et de technique qui est assez poétique, en fait, hein. C'est-à-dire que le fait de ramener dans ce patrimoine des éléments très très contemporains, il y a quelque chose qui est tout à fait poétique.
Jean Nouvel, on a compris avec cette pandémie que la promiscuité favorisait la propagation des virus. On a vu des quartiers d'affaires se vider, notamment des quartiers où il y a des tours. Est-ce que ce qui se passe peut remettre en cause tout simplement l'existence des tours de bureaux à l'avenir? En se disant qu'on favorise le télétravail.
Non, mais je pense que oui, le télétravail va sûrement changer pas mal de mode de vie. Donc c'est vrai que c'est pas les tours uniquement, je dirais c'est tous les bureaux qui ne sont pas automatiquement accessibles aussi souvent si on décide de vivre autrement. Maintenant, chaque travail a ses caractéristiques. Il y a des moments où il faut travailler ensemble quand même, et je pense pas que ça changera radicalement et immédiatement ce genre de choses. Mais je pense qu'on va aller quand même vers un plus grand confort dans le travail, une plus grande diversification, et je crois qu'il est assez intéressant de considérer qu'on peut travailler pratiquement dans n'importe quel endroit, y compris les plus agréables et les plus grands.
Et là, vous pensez aux tours que vous êtes en train de construire à Ivry, aux portes de Paris, les tours du haut, c'est ça? On en dit un tout petit mot?
Si vous voulez, elles sont à la porte d'Ivry, effectivement. Ben, elles sont en chantier, elles ne sont pas trop arrêtées, elles sont arrêtées un tout petit peu, mais elles ont continué. C'est un couple de tours. Bon, construire à Paris des tours, c'est compliqué, hein. C'est un exercice difficile, parce qu'une tour, ça se voit de loin, et qu'une tour, ça caractérise les lieux. Donc une tour doit être fière, mais une tour doit apporter un supplément de caractère, un supplément d'âme, en fait. Et une tour doit être ancrée. Elle doit être en relation avec son site. Donc le fait de cloner les tours, c'est une très très mauvaise idée, et surtout à Paris. Donc ici, en fait, cette tour, elle se met en limite des voies ferrées qui vont sur la gare d'Austerlitz. Et donc, on voit passer des dizaines de trains en dessous, comme ça. Et le long du périphérique, je parle de la tour principale. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on voit depuis là-haut le périphérique qui passe comme un pont aubané, les trains en dessous et les voitures dessus. C'est un spectacle assez féerique de nuit aussi. Et j'ai choisi donc de faire une tour inclinée, un peu plus que celle de Pise, sur cette partie-là, pour aller chercher le reflet, une série de reflets des trains et des voitures qui sont sur le périphérique, à toutes les heures. Donc ça va donner évidemment un spectacle urbain tout à fait particulier. Ça donne évidemment des vues très agréables à tous ceux qui vont vivre tout cela. Quand on est en haut, on a quand même un privilège, c'est celui de voir loin, c'est celui de voir de façon très très dégagée. Il y a une deuxième tour qui est à côté de celle-là, où les reflets seront beaucoup plus courbes, seront beaucoup plus déformés. Et en fait, cette tour-là, la tour principale, a une sorte de tête, comme ça, comme si elle relevait la tête. Et en fait, elle est le point culminant d'un quartier tertiaire, donc qui est à la porte d'Ivry. Et donc, en tant que tel, c'est un repère urbain.
Alors Jean Nouvel, un des enseignements de ce qui vient de nous arriver, qui est d'ailleurs pas encore tout à fait derrière nous, c'est que nous vivons dans un environnement ultra bruyant. Certains en avaient conscience, d'autres moins. Il y a quelques jours, l'acousticien et écologue Jérôme Sueur, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, a lancé un appel avec d'autres spécialistes des nuisances sonores pour que le facteur bruit soit pris en compte à l'avenir. On l'écoute, il est avec Olivia Ferrandi.
On a retiré une pollution sonore pendant le confinement. On a enlevé notamment tous les sons qui viennent de nos transports, mais aussi de nos voix, de nos mouvements dans la rue. Et de fait, on entendait mieux les sons qui proviennent de la nature. Si on en a un petit peu autour de soi, il suffit d'un arbre. On entend beaucoup mieux le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles ou simplement un insecte qui passe. Donc en fait, c'est une sorte de rééquilibre sonore. On a changé un peu l'équaliseur de l'environnement sonore. Pour les riverains des aéroports, c'était vraiment une période beaucoup plus calme et la reprise va peut-être être compliquée parce qu'on est en train de remettre en marche nos vies et nos machines. Mais on peut aussi penser à la circulation routière qui nous affecte vraiment presque tous. C'est 86% de la population française qui est affectée par les bruits de la route au quotidien. Et donc tout ça, c'est en train de reprendre.
Dans la ville de demain, comment réduire cette pollution sonore ?
Alors c'est très compliqué de lutter contre le bruit. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui qui sont plutôt des solutions pour se protéger du son, mettre des murs, s'isoler. L'idée aujourd'hui, ce serait peut-être d'essayer de travailler à la source, de réduire notre utilisation aussi des machines tout simplement. On parle beaucoup de reprendre le vélo. Ben voilà, reprendre le vélo, on va réduire le bruit dans les centres-villes. Utiliser peut-être des scooters électriques et pas des scooters thermiques qui font énormément de bruit. Une autre possibilité aussi à laquelle on peut penser, c'est d'augmenter finalement dans notre environnement sonore la part liée à la nature.
Ça veut dire plus de parcs, plus de jardins ou plus de murs végétalisés ?
Toutes les options possibles, plus de parcs, plus de jardins, parce qu'on aura plus de milieux ouverts où il y aura moins de réverbération sonore, mais c'est aussi plus de parterres, de fleurs ou de murs végétalisés.
Est-ce que la végétation absorbe le bruit comme pourrait le faire le tissu, par exemple, dans un habitat ?
Alors, un petit peu, c'est le substrat dans lequel la végétation croît qui peut absorber un petit peu les sons. Donc ça, en fait, ça change un petit peu l'ambiance sonore. En plus, on apporte des sons agréables, c'est-à-dire qu'on va ajouter des sons qui sont plutôt calmants, apaisants, et qui donc finalement vont rentrer un petit peu en compétition avec le bruit qui nous stresse. Les bâtiments sont surtout faits maintenant en verre, notamment tous les grands immeubles, et ces surfaces réverbèrent énormément les sons, et donc ne participent pas à l'amélioration acoustique des villes. Et là, en apportant des sons des oiseaux, on change l'environnement. On passe d'un environnement qui est très minéral à un environnement plus vert, plus naturel, moins stressant.
Voilà l'acousticien Jérôme Sueur. Jean Nouvel, moins de bruit, plus de nature, c'est ce que demandent les habitants des grandes villes. Alors vous qui avez construit le musée du Quai Branly avec sa façade végétalisée, vous pensez que c'est un modèle qu'on peut développer ou pas ?
Je ne sais pas s'il faut mettre toujours de la végétation sur les façades. Mais c'est ce que je voulais dire par rapport à ce problème d'acoustique. c'est que l'architecture, c'est aussi un instrument de musique, en fait, quoi. Il y a un acousticien chinois qui s'appelle Tan, qui travaille comme ça sur le son qui est créé par les bâtiments, sur la façon de se promener dedans, sur la façon de le faire résonner. Donc il y a à chaque fois une anticipation, je dirais, à concevoir en relation avec la sonorité du bâtiment, et aussi une anticipation, c'est-à-dire qu'on sait que normalement, dans les décennies à venir, les véhicules sont silencieux. Donc le périphérique peut être une belle vallée de lumière, finalement, et de silence.
Voilà, jouer sur les bâtiments et puis jouer aussi sur les transports. On accueille maintenant Mathieu Chassinier, qui est ingénieur mobilité à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Un des principaux défis, évidemment, ce sont les transports. On voit que les gens sont réticents à emprunter les transports en commun sur lesquels on avait tout misé ou presque. On voit qu'on invente des solutions en urgence pour le vélo, par exemple, avec des pistes cyclables provisoires tracées à la hâte. C'est une solution ?
Oui, alors on voit que de nombreuses villes ont démarré ce mouvement depuis le mois de mars. C'est la ville de Bogota, en Colombie, qui a été pionnière, puisqu'elle a installé plusieurs dizaines de kilomètres de pistes cyclables temporaires. À l'époque, le confinement n'était même pas encore en vigueur en Colombie. Donc l'idée, c'était vraiment de limiter la fréquentation des transports collectifs en offrant une alternative qui était le vélo. Donc beaucoup de villes du monde se sont inspirées, ont regardé vers Bogota et se sont dit « Tiens, c'est une excellente idée, on va proposer la même chose ». Et donc depuis, des villes nord-américaines ont fait de même. C'est arrivé ensuite en Europe, d'abord par Berlin, dès le début du mois d'avril. En France, on a mis un petit peu de temps à s'y mettre, mais depuis 3-4 semaines, il y a eu vraiment une véritable émulation entre les grandes villes françaises. Ça a commencé par Montpellier, qui a été la première à se lancer. Puis depuis, quasiment toutes les métropoles, hein, Paris et puis toutes les métropoles de province, se sont prononcées. Ont annoncé un certain nombre de kilomètres de pistes cyclables temporaires qui allaient être mises en place. Et puis aujourd'hui, on commence à voir les premières qui sont sorties de terre, hein, avec des résultats qui sont parfois très, très spectaculaires.
Alors justement, ouais. Mathieu Chassinier, on va avoir un exemple. On va avoir à Paris le cas de la rue de Rivoli, qui est une des principales artères de la capitale, puisqu'elle traverse une partie de Paris d'est en ouest. Elle est désormais réservée aux transports en commun, aux utilitaires et aux vélos. Les cyclistes, eux, apprécient. C'est un reportage de Faustine Calmel.
Il y a ceux qui ont investi dans un nouveau vélo, ceux aussi qui ont ressorti celui qui dormait à la cave. Sylvie, architecte, s'est remise à pédaler pour aller travailler pendant le confinement. Et pour ce premier jour déconfiné, elle a décidé de continuer.
Parce que les transports en commun, on n'a pas tellement envie d'y aller. Puis je préfère laisser ça aux gens qui en ont vraiment besoin. Moi, j'habite pas très loin, donc c'est facile pour moi. C'est très calme. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être continué à faire du télétravail aujourd'hui. On verra ça dans les jours qui viennent. Je pense que ça risque de changer.
Un plus de gens à vélo, pas flagrant pour le moment, mais c'est ce qu'anticipe la mairie de Paris, qui donc sur cette rue de Rivoli réserve une voie supplémentaire aux cyclistes. Le marquage jaune au sol est frais, bien visible, mais pas toujours accepté par les automobilistes. Sur Anne-Sophie, qui elle prend le vélo pour la première fois avec sa fille.
Normalement, on a cette voie de droite, mais les voitures ne respectent pas. Donc on y était à l'instant et on a été obligé de se remettre sur la voie de vélo normale pour pouvoir avancer. Sinon, ils klaxonnent un peu derrière.
Parce que même si on est très très loin des embouteillages parisiens habituels, et bien quelques voitures et surtout des utilitaires de livraison ont repris du service pour les commerces d'une rue de Rivoli encore bien calme.
Voilà pour ce reportage réalisé au début de la semaine, Mathieu Chassinier de l'ADEME. Ce genre d'aménagement éphémère qui sera peut-être amené à durer, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, c'est ça ?
Oui, alors le concept d'urbanisme tactique, c'est un concept qui est très développé en Amérique du Nord notamment. En fait, c'est une autre façon de concevoir la ville, beaucoup plus rapide et agile, qui consiste à mettre en place et à utiliser du mobilier qui est facile à installer et à désinstaller, qui est facile à modifier dans le cas où on n'aurait pas réussi l'aménagement du premier coup. Et donc, c'est aussi un mouvement assez contestataire face au constat que finalement, dans nos villes, entre 50 et 80% de l'espace public est réservé aux voitures. Et donc ça, c'est un constat qui paraît très inégal finalement, très inéquitable. Et on a eu des mouvements de personnes qui ont voulu récupérer de l'espace urbain, et par exemple en traçant des pistes cyclables sauvages pendant la nuit, Ou par exemple, il y a une opération très connue aux États-Unis qui s'appelle Parking Day, qui a lieu chaque année, où en fait on utilise les places de parking pour en faire autre chose. Donc on va mettre par exemple des transats, on va installer son bureau pour y faire du télétravail, des choses comme ça. L'idée, c'est de montrer, c'est de faire de la pédagogie et de montrer qu'on peut faire autre chose dans nos villes que de faire circuler des voitures. Et donc cet espace urbain peut être réalloué à d'autres usages.
Et notamment aux piétons, va falloir réfléchir à la place qu'on leur laisse aussi.
Et notamment aux piétons, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du vélo. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant sur ces pistes cyclables temporaires, c'est qu'on voit qu'elles sont très utilisées en fait. Aujourd'hui, on a les premiers chiffres, hein, puisque on est déconfiné depuis lundi. On voit que les transports collectifs restent sous-utilisés, il y a à peu près 20 à 25% de la fréquentation normale. On voit que les routes sont globalement assez peu utilisées. Et le seul moyen de transport qui a d'ores et déjà retrouvé son niveau d'avant, finalement, c'est le vélo. On a les données hein, aujourd'hui des compteurs qui sont installés dans Paris. On est quasiment sur une pratique qui est équivalente à ce qu'on avait pendant la grève du mois de décembre, donc qui était déjà une pratique extrêmement élevée. Donc voilà, donc le vélo, d'ores et déjà, beaucoup de gens se sont tournés vers le vélo. D'ailleurs, on voit que les vélocistes, aujourd'hui, sont très fréquentés. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter des vélos, beaucoup de gens qui vont faire entretenir ou réparer leur vélo. Donc ces premières pistes cyclables qui vont se poursuivre, déjà, elles sont très utilisées. Alors, voilà, on parle beaucoup du vélo. Faut aussi faire de la place aux piétons. Nos trottoirs sont très souvent, et même la plupart du temps, trop étroits pour que deux piétons puissent se croiser dans de bonnes conditions dans le contexte du déconfinement. La largeur réglementaire d'un trottoir, c'est 1m40 en France, et 1m40, c'est même pas suffisant pour que deux piétons puissent se croiser. Aujourd'hui, c'est d'autant plus important pour la reprise du commerce local. Il faut que le commerce local puisse se relancer, que les gens puissent consommer en toute sécurité dans ce commerce-là. Et pour cela, il faut créer les conditions de la confiance pour les consommateurs. Et il faut leur faire plus de place. Il faut leur faire du plus de place. Et la seule réserve en ville aujourd'hui, le seul moyen de faire plus de place aux piétons, c'est de récupérer de la place qui est aujourd'hui utilisée par la voiture. Mais ça peut être, par exemple, de neutraliser quelques places de stationnement dans certaines rues. Ce qui complique les choses, c'est qu'aujourd'hui, le trottoir, c'est devenu la salle d'attente de nos commerces. Puisque, voilà, l'entrée dans les commerces est régulée, on a des files d'attente qui se forment sur le trottoir. Et donc, ça veut dire qu'il faut d'autant plus des trottoirs qui soient confortables, qui soient larges. Et on a déjà des villes qui mettent en place qui élargissent des trottoirs ou qui piétonnisent temporairement des rues.
On voit en tout cas que cette, pardon Mathieu Chassignet, que cette crise, elle bouscule beaucoup de choses au niveau de nos villes. On voit ces pistes cyclables éphémères. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut concilier l'urgence, puisqu'on est dans l'urgence actuellement, avec l'aménagement des villes qui, par définition, est quand même quelque chose qui se fait sur le long terme. Est-ce que c'est possible, ça?
Alors, je dirais que ce qu'on est en train de vivre, c'est un accélérateur très fort, puisque cette tendance du recul de la voiture dans les villes, elle date pas d'hier, hein, elle date d'au moins d'il y a 20 ou 30 ans. Faut se rappeler que dans les années 70, 80, la plupart des places de nos villes étaient des parkings, en fait. Le parvis de Notre-Dame, par exemple, la place de l'Hôtel de Ville à Paris étaient des parkings. Les places des villes de province étaient des parkings également. La Grand Place de Lille, par exemple, était un parking. Et donc, à partir des années 80-90, on a commencé à considérer que c'était pas normal et que ces lieux n'avaient pas vocation à stocker des voitures. Donc, on a commencé à piétoniser les places des centres-villes. Un autre exemple, c'est les potelets qu'on a commencé à installer sur nos trottoirs dans les années 90 à Paris. C'est-à-dire qu'avant, on acceptait que les voitures stationnent sur le trottoir. Ça, aujourd'hui, ça paraîtrait complètement impossible. Ça paraîtrait, enfin voilà, plus personne ne souhaiterait revenir dans cette situation-là. Donc c'est un mouvement qui existe hein, depuis plusieurs décennies, mais qui est très lent à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il a fallu 30 ans pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et donc si cette crise peut avoir un effet positif, si je puis dire, c'est d'accélérer ces tendances. Et finalement, pendant le confinement, on a vu d'une part des rues vides, des routes vides, et d'autre part des trottoirs qui étaient trop pleins, qui étaient bondés. Et donc finalement, ça a été un révélateur du fait que l'espace public aujourd'hui en ville est absolument inéquitable. Il y a une mauvaise répartition de l'espace public, puisque finalement le piéton, qui est le mode de transport qui est le plus universel, bénéficie de beaucoup trop peu de place, et donc il faut rééquilibrer. Donc voilà, dans le contexte du déconfinement, il va falloir rééquilibrer, et il va falloir finalement non pas avoir une rupture par rapport à ce qu'on faisait auparavant, mais avoir une très forte accélération.
Bien sûr, d'autant plus que évidemment il y a la question des transports urbains qui se posent avec en plus les problèmes de promiscuité. Un très grand merci Mathieu Chassigné de l'ADEME d'avoir été en ligne avec nous. Merci beaucoup. Jean Nouvel, vous êtes toujours là ?
Je suis toujours là.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre sur le fait que cette crise, c'est un accélérateur de choses qui étaient déjà plus ou moins engagées ?
Oui, mais enfin là, je crois qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une grande problématique en architecture, c'est ce qu'on appelle support-apport. Hein. C'est-à-dire que la ville, finalement, c'est du dur et c'est un support. Et sur ce support, les choses bougent. On les met comme des meubles ou comme des choses qui passent. Et ça, ça change avec toutes les époques. À chaque fois, il y a des modes, il y a de nouvelles façons de se promener. Et c'est pas fini. C'est pas fini, ça. Je pense qu'on est à la veille d'une révolution, avec un changement sur la nature des véhicules, ça c'est sûr. Et donc, à chaque fois, il faut adapter l'urbanité de la ville à la façon dont elle est vécue. Mais le vélo, quand même, il a déjà des adeptes forts. Quand on voit ce qui se passe au Danemark, par exemple, où j'ai beaucoup travaillé, c'est absolument peuplé de vélos. Et la voiture est secondaire.
Alors, on est à la veille d'une révolution, c'est ce que vous nous dites. Il va falloir repenser l'urbanisme. On va poursuivre, Jean Nouvel, la réflexion dans un instant. Le temps d'écouter les Rolling Stones, qui, figurez-vous, ont composé une chanson de circonstance.
Living in a ghost town. You can
Ghost Town, les Rolling Stones, tout simplement, chanson enregistrée l'an dernier et réécrite dans l'urgence au début du confinement par les Stones qui décidément n'ont pas dit leur dernier mot. C'est le choix musical de Muriel Pérez.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de l'architecte Jean Nouvel qui nous fait l'honneur d'être avec nous jusqu'à 19h. Comment imaginer la ville de demain pour ne pas vivre dans une ville fantôme comme le chantent les Stones, Jean Nouvel? Vous plaidez pour une autre politique urbaine et ça depuis un petit moment. Je crois que vous en avez même parlé avec le président Macron, c'est ça?
Oui, j'ai eu l'occasion de lui faire passer un certain nombre de textes à ce sujet et d'avoir des discussions à ce sujet, effectivement. Mais effectivement, je pense qu'il faut, depuis très longtemps, revoir totalement la façon dont la France prend en compte ses territoires et revoir totalement le problème de l'urbanisme. J'ai pas beaucoup d'amitié pour les urbanistes. Je crois qu'ils sont pour l'essentiel des propagateurs d'une idéologie assez répugnante basée sur la ségrégation territoriale, fonctionnelle et sociale.
Vous y allez fort là.
Je pense qu'ils ont saboté l'essentiel des territoires urbains de la planète. Je pense qu'ils sont fatalistes, qu'ils admettent calmement l'inadmissible, qu'ils théorisent des variations sur des bases irrecevables. On ne sait jamais d'où ils parlent, d'ailleurs. On ne sait pas s'ils sont géographes, sociologues, écologues, paysagistes, spécialistes des transports. Et on a l'impression que la synthèse et l'intelligence sont en dehors des limites de leurs épures. Donc on vit là-dedans depuis un demi-siècle ou plus, quoi. Donc il faut vraiment changer quelque chose, quoi. Et je propose effectivement de changer en allant dans le sens d'une démocratisation totale de l'urbanisme et de la façon dont il est conçu. Et je propose pour ça des ateliers d'élaboration des territoires qui seraient une démocratisation absolument totale de la façon de concevoir la ville. C'est quelque chose qui n'a rien à voir en fait avec les ateliers technocratiques d'aujourd'hui. Ce sont des lieux où serait élaborée la stratégie écologique, celle des transports, celle aussi de la nourriture, où la ville deviendrait nourricière. Ces ateliers seraient à l'opposé des ateliers d'urbanisme technocratique d'aujourd'hui, des lieux d'élaboration ouverte, des lieux de démocratisation et de transparence des projets qui prendraient la forme aux yeux et de tous et autour de ce que j'appelle un metteur en ville qui organiserait son équipe comme un chef organise son orchestre ou un metteur en scène sa troupe.
En gros, vous demandez une sorte de démocratie participative au niveau de l'urbanisme?
Oui, participative déjà par rapport à l'intervention de tous ceux qui sont dans l'acte de construire. Il faut bien voir que la plupart des acteurs de l'acte de construire aujourd'hui ne sont plus dans leur rôle sociétal. C'est-à-dire que l'État, lui, se doit de protéger les territoires, se doit de faire en sorte qu'on puisse aménager ces territoires à toutes les échelles et surtout par rapport à toute la différenciation des territoires français et ce merveilleux patrimoine naturel et archéologique, évidemment, et historique. Et là, donc, on est toujours face à ce système normatif qui fait qu'on propose toujours la même chose. Donc, il faut absolument mettre en place une élaboration qui se passe avec des architectes qui ont retrouvé leur rôle sociétal aussi, parce que l'architecte est quand même celui qui normalement trace la ville, celui qui met en place l'essentiel des bâtiments qui sont là-dedans, et qui essaie de trouver aussi des résonances avec la situation, avec le lieu, qui essaie de provoquer le génie du lieu, comme on dit, et toutes ces notions-là sont absolument exemptes, elles ne sont plus là. J'essaye de faire en sorte qu'on puisse revenir ou venir à une élaboration qui prendrait en compte tous ces paramètres et de créer des lieux de dialogue et d'information sur tous les quartiers. Ces projets seraient pour beaucoup de l'ordre de la modification, d'ailleurs de l'enrichissement de l'architecture existante. Il ne s'agit pas de travailler uniquement sur les nouveaux projets, sur les nouveaux quartiers. Les territoires, c'est des territoires où les choses sont là pour longtemps. Même quand on dessine quelque chose dans une ville pour dans 10 ans, on se rend compte qu'à 80%, la ville est déjà là. À 80%, elle ne bouge pas. Mais par contre, elle doit s'adapter. Donc il ne s'agirait pas de tout chambouler, mais de développer les plaisirs d'être là, de pouvoir y rester. Et de faire en sorte qu'on puisse s'en sentir bien chez soi, qu'on n'ait pas envie d'aller habiter ailleurs ou de déserter son appartement.
Jean Nouvel, je vous arrête parce que malheureusement l'émission va se terminer. Pour en revenir à ce qu'on disait au tout début, tout à l'heure, ça veut dire que cette crise, elle sert de révélateur et elle doit nous donner une chance de faire autrement, c'est ça ?
Elle doit nous donner une chance de rééquilibrer les territoires, de faire en sorte que chacun puisse être en relation avec sa fonction et avec surtout son histoire, avec sa sensibilité. Quand on a un patrimoine comme celui que nous avons, quand on a des villes comme celles que nous avons, quand on a des paysages comme ceux que nous avons, nous devons faire en sorte que ces villes puissent bouger, que tout le monde puisse, à l'échelle des métropoles, à l'échelle des agglomérations, à l'échelle des villes, il doit y avoir des projets stratégiques. Pour le moment, l'urbanisme se fait sans projet. Personne n'imagine ce qui va se passer. Donc il faut maintenant qu'il y ait des projets urbains, des projets qui soient des visions, à chaque fois, des villes et des territoires.
Et ce sera le mot de la fin.
Deviennent en fait la règle, qu'à partir de là, on puisse approfondir les lieux et que tout le monde puisse vivre dans le plaisir de vivre, dans le plaisir de s'épanouir dans la nature et dans les villes de notre patrimoine.
Merci beaucoup Jean Nouvel d'avoir passé ces trois quarts d'heure en notre compagnie. On voit que dans tous les domaines, les débats s'accélèrent après cette crise du coronavirus. Un très grand merci à vous. C'est l'heure de notre rubrique Heureux déconfiné à présent avec Philippe Bertrand, car le carnet des solutions c'est le dimanche aussi.
Claire, je vous conduis aujourd'hui dans le décor magistral du Vercors. L'histoire du jour commence mal. Un deuil familial juste avant l'arrivée du confinement. Deux punitions pour Florence isolée loin de chez elle. L'histoire qui commençait mal se poursuit toutefois sous un angle plus paisible, plus chaleureux, pour tout dire plus enchanteur, car Florence Corbalan est chanteuse lyrique. Mais elle dispose d'une autre corde, un peu moins vocale, puisqu'elle est sommelière. Florence Corbalan, bonjour.
Bonjour Philippe.
Florence, donc pendant le confinement, vous avez décidé de faire partager vos deux passions aux habitants de ce beau Vercors.
Oui, en fait, l'idée m'est venue lorsque je suis allée chanter, mais spontanément comme ça, chez une amie, joyeux anniversaire à pleine voix. Et quand j'ai vu la joie que ça lui a procuré, quand j'ai vu qu'un sourire laissait place enfin, chassait plutôt sa tristesse, je me suis dit, waouh, c'est une super idée, quoi, parce qu'avec mes petits moyens, juste avec ma voix, je peux donner du bonheur. Donc, j'ai proposé au village d'Autran, dans le Vercors, de non pas faire la tournée du courrier, mais faire une tournée de chant. Sous les balcons, tel Roméo, ou dans les jardins. Le bouche à oreille a fonctionné, et là, je suis allée dans plusieurs quartiers, voir Jeannot, voir Nénette, Denise, Marie-Antoinette, et à chaque fois, ils prévenaient leurs voisins, et ça se transformait en petits concerts, qui étaient de plus en plus organisés, n'est-ce pas? Parce que j'avais ma petite enceinte qui diffusait un accompagnement piano, et je leur demandais à chaque fois d'apporter une bouteille de vin, et on trinquait à distance. Donc, j'ai fait des accords musique et vin dans les jardins, chez les gens, et j'ai reçu beaucoup en retour. Parce qu'en fait, quand on donne de soi, ouais. Eh bien, on reçoit beaucoup. L'émotion était palpable, et c'était des grands moments de partage. C'était vraiment fort. Je parle au passé, mais je continue, en fait. J'arrête pas parce que j'ai d'autres personnes qui ont envie que je passe chez elles, et on m'envoie même des mails pour me dire, oh, si vous pouviez aller voir ce monsieur qui a 93 ans, qui est un fan de jazz. Donc je suis en train de revoir mon répertoire et je pense qu'il sera ravi. Ouais. Voilà.
Mais Florence, ça veut dire que le confinement a provoqué une frustration de relations, de liens, de culture, frustration qui se prolonge encore aujourd'hui.
Oui, exactement. Les gens ont besoin de culture. À chaque fois, on me disait « Oh là là, c'est la culture qui vient à nous. Merci, quelle belle idée. Il faut que vous continuiez. » Parce que les gens restent relativement chez eux encore, ici. je vois pas grand monde dans les rues et donc c'est bien que je fasse ça et ça crée du lien.
Il y a un site si vous voulez connaître le répertoire de Florence, florencecorbalan.fr. Si je vous demandais une petite note chantée, ce serait laquelle ?
Une note pétillante qui irait très bien sur le champagne, ça sera la danse de Rossini qui fait à peu près ça. La luna in mezzo mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che d'amor non mancherà. Voilà, petit doigt du matin.
Merci Florence. Merci Florence.
Mais je vous en prie Philippe, merci à vous.
Et effectivement, merci beaucoup Philippe Bertrand. Dans quelques instants, le journal de 19h.